RTR, Radio Temps Rodez.
Ces dernières années, le commerce a changé de visage. L'essor du e-commerce, l'ouverture des magasins le dimanche, ou encore l'intérêt florissant des clients pour l'écologie et le développement durable.
Acteurs ou victimes de ce changement, les élèves en bac pro commerce du lycée Louis Kerbe de Rodez en débattent. À propos du e-commerce, voici un premier débat proposé par Melvin, Mathias, Hugo et Océane.
Bonjour mes chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui le 16 novembre 2017. Nous sommes en compagnie de 4 jeunes élèves en classe de terminale bac pro commerce du lycée Louis Kerbe à Rodez. Bonjour Océane.
Bonjour.
Melvin, bonjour.
Bonjour.
Hugo, bonjour.
Bonjour.
Et pour finir Mathias.
Bonjour.
Donc ces 4 élèves ont des expériences différentes grâce à leur stage fait au lycée depuis la seconde. Pouvez-vous nous dire dans quelle branche avez-vous fait vos stages, Melvin ?
Alors moi j'ai fait mes stages dans le prêt-à-porter chez Armand Thierry, mais aussi dans la grande distribution à Super U où j'ai pu faire de la caisse mais aussi de la mise en rayon.
D'accord, Hugo ?
Donc j'ai réalisé mes stages dans des magasins de sport, donc à Sport 2000 Intersport, et dans un magasin de jouets, à King Jouet. Tout au long de ces 3 stages, j'ai fait du réassort, du conseil client, du facing et de l'implantation.
Pour toi, Océane ?
J'ai fait mes stages en prêt-à-porter, j'ai mis en rayon des articles, rangé le magasin et conseillé le client.
Ouais, pour finir, Mathias ?
Alors j'ai effectué mes stages dans la grande distribution et dans une boutique de chocolat. Dans la grande distribution, j'ai fait de la mise en rayon, du conseil client, de la caisse et j'ai aussi appris à gérer la comptabilité de la caisse. Dans le magasin de chocolat, j'ai géré la caisse, préparé les commandes et conseillé et servi les clients.
Donc tout le monde a fait ses stages en magasin, mais pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le e-commerce ? Hugo, aurais-tu une définition ?
Oui, donc le e-commerce ou commerce électronique regroupe l'ensemble des transactions commerciales s'opérant à distance par le biais d'interfaces électroniques et digitales.
Melvin, pouvez-vous compléter la définition de Hugo en disant le concept ?
Alors le concept du e-commerce est né au moment des premières transactions effectuées par des moyens électroniques. En France, les origines du commerce électronique remontent aux années 80, au moment des premières transactions par Minitel. Dans les années 90, les ordinateurs se commercialisent et Internet fait son apparition dans les foyers français. Les transactions entre entreprises et particuliers commencent à augmenter. Au dernier semestre 1996, le nombre de foyers équipés d'une connexion Internet ne dépassait pas la barre des 95 000. En 1997, le commerce électronique semble se démocratiser et les entreprises historiques du secteur informatique telles qu'IMB et Microsoft se lancent dans l'aventure virtuelle.
Avez-vous quelques chiffres à propos de ce type de commerce ?
Oui.
On vous écoute.
Alors en 2015, les ventes sur Internet ont progressé de 15% en un an. 1,29 milliard de transactions en ligne ont ainsi été effectuées, une augmentation de 23% par rapport à 2015. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du e-commerce est de 72 milliards d'euros. Les opérations sur mobile continuent de fortement augmenter et représentent 16% des achats, ce qui équivaut à 11 milliards d'euros sur les 72 milliards d'euros du chiffre d'affaires global. Cependant, le panier moyen d'achat sur Internet diminue.
Et vous, Océane, avez-vous les sites les plus utilisés en France ?
Oui, alors les 5 sites de e-commerce les plus visités de France en 2015 sont Amazon avec 16,3 millions de visiteurs, Cdiscount avec 10,2 millions de visiteurs, la Fnac avec 8 millions de visiteurs, eBay avec 7 millions de visiteurs et Voyage NCF avec 6 millions de visiteurs par mois.
Donc, d'après ce que vous venez d'expliquer, le e-commerce est en plein essor. Or, aujourd'hui, vous êtes tous dans le commerce.
Oui.
Selon vous, le e-commerce est-il une menace pour le commerce traditionnel ? Mathias, à votre avis ?
Oui, je suis pour et contre le e-commerce, car cela peut arranger les clients, par exemple par gain de temps, car le client peut parfois ne pas avoir le temps d'aller en magasin. Mais je suis contre, car cela diminue fortement le taux d'attractivité dans les magasins. Mais d'après les sites Scoop, les consommateurs aiment acheter en ligne, car ils peuvent acheter n'importe quand, ils peuvent aussi comparer les prix, donc acheter moins cher. Cependant, le consommateur va d'abord sur Internet afin de se renseigner sur un produit. Il va ensuite en magasin pour l'acheter car il a besoin de voir le produit et le toucher.
Donc votre avis est partagé ?
Oui.
Océane, selon vous ?
Pour moi, le e-commerce est une menace car il n'y aura plus de contact entre le vendeur et le client. Or, c'est ce qu'ils cherchent pour être conseillé, rassuré, accompagné. Il y a déjà 4 ans, en avril 2013, un sondage sur Ipsos a publié que 72% des Français déclaraient préférer faire leur shopping en magasin plutôt que sur Internet. Internet remporte la palme de la praticité à 95%, mais manque de chaleur humaine pour 84% des sondés. Les Français craignent de vivre dans un monde déshumanisé et désincarné.
Vous trouvez donc que c'est une menace pour les commerçants ?
Oui.
Hugo ?
Oui, c'est une menace car je trouve que cela met en danger les générations futures qui travailleront dans le commerce. et cela réduit les ventes pour les petits commerces traditionnels.
Et Melvin, selon vous ?
Alors moi, je suis pour le e-commerce, car cela peut faciliter le client. C'est aussi un gain de temps pour le consommateur et une réelle avancée technologique. Pendant les jours où les magasins sont fermés, nous pouvons quand même acheter sur Internet, même le dimanche, jour férié ou à n'importe quel moment de la journée. Des prix plus attractifs nous sont proposés avec des promotions plus avantageuses. Voilà pourquoi je suis totalement pour le e-commerce.
Donc pour vous, le e-commerce n'est pas un danger ?
Non, pas du tout.
Pour conclure, le e-commerce partage les avis. J'espère que ce débat vous aura plu et vous aura éclairé sur le e-commerce. Merci à nos invités, Hugo, Melvin, Océane et Mathias.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir mes chers auditeurs et à très bientôt sur notre radio RTR.
Au revoir.
Au revoir.
Toujours par les élèves en bac pro au lycée Louis Kerbe de Rodez et toujours sur le e-commerce, on écoute les avis de Tyson, Nathan, Lisa et Louis.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du e-commerce avec Tyson, vendeur chez Brice, Nathan, statisticien, et Lisa et Louis, clients, qui ont l'honneur de venir nous faire partager leurs témoignages. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Bonjour Nathan.
Bonjour.
Bonjour Tyson.
Bonjour.
Bonjour Louis.
Bonjour.
Et vous, comment effectuez-vous vos achats ? Sur internet ou en magasin ?
Alors avec mon travail, je n'ai pas le temps d'accorder à une journée shopping. En plus, en habitant sur Rodez, je trouve qu'il n'y a pas assez de choix.
Ben pour moi, c'est le contraire. Vu que j'habite à Lyon, je commande beaucoup moins sur Internet parce que j'ai beaucoup plus de choix en ville.
Et vous, Tyson, lorsque des clients viennent retirer leur colis, ne font-ils pas des achats d'impulsion ?
La plupart des clients qui viennent en magasin, souvent, ils viennent chercher leur colis. Ils ne prennent pas vraiment le temps d'aller voir les produits proposés en magasin. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, seulement 10% sur 100, je dirais, qui vont vraiment faire le tour en magasin pour voir ce qu'il y a.
Moi, personnellement, lorsque je vais retirer mon colis, je suis pressé de le récupérer, alors je n'accorde pas forcément l'importance de regarder les articles qui sont proposés dans votre magasin.
Et vous, Lisa ?
Ben moi, c'est le contraire, parce que quand je retire mon colis en magasin, les produits me donnent envie de compléter mon achat avec d'autres articles. Et si j'ai un coup de cœur dans le magasin, ben j'hésite pas à le prendre.
Pensez-vous que le développement du e-commerce est-il une menace pour le commerce en magasin ? En tant que vendeur, Tyson, qu'en pensez-vous ?
En tant que vendeur, oui, je trouve que c'est une menace, oui. J'ai pu le voir pendant les soldes. Il n'y avait pas vraiment grand monde en magasin. La plupart, ils venaient parce qu'ils ont commandé des produits sur Internet. Ils ne venaient pas vraiment pour acheter. Le magasin était un peu vide.
Voilà, il faut savoir que selon les données publiées par la Fédération du e-commerce, l'année dernière, les Français ont dépensé 72 milliards d'euros sur Internet, en hausse de 14,6% sur l'année 2015. Les acheteurs ont réalisé un montant total d'environ 2000 euros. Ce montant a quasiment doublé par rapport à 2010, où il était de 1084 euros.
En tant que client, qu'en pensez-vous ?
J'ai pu faire l'expérience du e-commerce. Cela me plaît et me permet de gagner du temps. Par exemple, un jour, j'ai pris mon après-midi pour aller chercher des gants de moto et je ne les ai pas trouvés, alors que le soir, en rentrant chez moi, en 15 minutes, je les ai pu les commander. Et je trouve qu'il y a toujours des bons plans sur Internet.
Moi aussi, je trouve cela très pratique.
Oui, mais il y a des risques à prendre.
Ah, quels sont les risques ?
Mais après, les tailles ne correspondent pas forcément. La qualité du produit, on ne peut pas l'avoir en commandant sur Internet et les couleurs arrivent souvent fades.
Bah, par exemple, la semaine dernière, je suis allée faire les boutiques en ville à Lyon et j'ai pu découvrir le concept des cabines intelligentes. J'ai trouvé ça super pratique parce qu'on n'a plus besoin de chercher les vêtements sur le magasin. La cabine, elle reflète directement le vêtement sur la personne et j'ai vraiment gagné du temps.
Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que je trouve que l'inconvénient de ces cabines est que l'image reflétée ne donne pas vraiment un rendu réel et les clients ne peuvent pas toucher vraiment la matière au niveau qualité, tout ça pour savoir. Et également, lors de la réception du colis, la taille ne peut pas convenir au client des fois. Et pourtant, sur l'image, la taille correspondait bien lors de son essai en cabine intelligente.
Voilà, il faut savoir que Decathlon a ouvert un concept qui remédie à ce problème. Où dans le magasin, toutes les références sont présentes. Les clients commandent via des bornes en magasin. Ils sont livrés chez eux dans 48 heures. Ce magasin dispose des avantages du commerce traditionnel qui sont de pouvoir toucher et essayer le produit, mais aussi des avantages du e-commerce qui sont des prix 10% moins chers et un stock beaucoup plus important.
Ouais, je trouve le fonctionnement intéressant, mais moi en tant que vendeur dans un magasin traditionnel, ça a un impact sur mon travail parce que il y a par exemple moins de choses à faire et ça fait que mon travail devient ennuyant.
Mais après, il n'y a pas forcément moins de choses à faire. C'est votre métier qui va changer. Ça va vous apporter, vous pourrez lui expliquer comment marchent les cabines, comment marchent les bornes, l'application. Et vous pourrez toujours le renseigner sur les tailles, sur sa morphologie, tout ça.
Nous avons pu atteindre plusieurs avis partagés. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir avec le hashtag RTR sur Twitter. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes à mes côtés. L'équipe RTR vous souhaite une excellente soirée.
Merci Alisa, Nathan, Louis et Tyson. Pour nous parler de l'ouverture des magasins le dimanche, nous avons reçu Elsa, Anaïs, Eva et Angelina, élèves au lycée Louis Cab à Rodez en bac pro commerce.
Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet du jour touche le commerce national. Nous avons tous entendu parler de la loi Macron qui assouplit la législation applicable au travail dominical. Pour vous parler de l'ouverture des magasins le dimanche, nous recevons Elsa, employée à Carrefour à la Primo. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Et Anaïs, adhérente à la CGT. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Qui sont toutes les deux contre l'ouverture des magasins le dimanche. En face, nous recevons Eva, sportive de haut niveau mais surtout consommatrice. Bonjour Eva.
Bonjour.
Et Angelina, gérante d'un salon de maquillage à Rodez. Bonjour Angelina.
Bonjour.
Toutes les deux soutiennent ce projet. Nous allons donc ouvrir ce débat avec Angelina qui va nous parler de son 1-2-3, qui va nous donner son opinion sur la question.
Il ne faut pas oublier qu'avant tout travail le dimanche, les secteurs d'activité doivent donner leur autorisation. Je voulais partager mon approbation sur ce sujet car en tant que gérante, je trouve ça bénéfique. Les consommateurs pourront faire des achats de dernière minute et ainsi nous constaterons une augmentation du chiffre d'affaires. De plus, pour les jeunes salariés, il est toujours appréciable d'avoir un complément de salaire.
En tant que représentante de la CGT, j'affirme que le droit de repos dominical est le fruit d'un véritable combat qui a abouti à son instauration dans la loi en 1908. Ceux qui l'ont obtenu l'ont fait au nom des droits, des familles, des voisins, des amis à se retrouver ensemble pour partager un temps sans travail. Si le travail est essentiel dans la vie de chacun, il ne représente pas tout. Seriez-vous prête à doubler le salaire de vos employés pour venir travailler le dimanche?
Laissons la parole à Eva, consommatrice.
Personnellement, étant sportive de haut niveau, je n'ai pas le temps de faire les boutiques en semaine. J'aimerais pouvoir concilier plaisir et obligations familiales. Le seul moment disponible que j'ai est le dimanche. L'avantage, c'est qu'il y a moins de monde en boutique et le personnel est plus à l'écoute et accueillant. De plus, cela pourrait permettre de résorber le taux de chômage en France.
Pour commencer, je trouve que je travaille assez la semaine, car pour moi, le week-end, c'est un moment pour rester avec sa famille et profiter de ses loisirs. De plus, ça crée la disparition des petits commerces.
Pourquoi nous insistons sur ce sujet, sachant que d'après une étude de la DARE en 2013, qui nous montre ainsi que 73% des boulangers travaillent le dimanche, 84% des aides-soignantes, 92% des pompiers et 95% des gendarmes et même 100% des stewards et des hôtesses de l'air. Alors pourquoi pas nous, en tant que vendeurs et employés de commerce, sachant qu'on est plus payés, on peut négocier d'autres avantages avec notre patron. Par exemple, je sais que chez Darty, les salariés bénéficient de la gratuité des transports en commun. Ainsi, on a des RTT dans la semaine qui va nous permettre d'occuper des salles de sport, d'aller moi aussi dans des magasins ouverts. Je ne suis pas contre le travail le dimanche à partir du moment où il est sur la base du volontariat et qu'il est rémunéré en conséquence et qu'il n'y a pas de systématique.
La France est une société profondément conservatrice. Dès que l'on cherche à changer ses habitudes, à troubler l'ordre établi, elle râle et refuse tout net le moindre changement par principe. Et pourtant, elle finit toujours par prendre le chemin du progrès. En 2006, beaucoup prédisaient l'échec sur la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et aujourd'hui, qui ne serait pas choqué de voir son voisin de table allumer une cigarette en plein repas? Il en va de même pour le travail dominical.
Tout d'abord, est-ce que vous savez d'où vient le repos dominical? En France, le repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures est apparu de manière progressive dans la loi. Napoléon III promulgue une loi en 1852 qui tente d'imposer une journée de repos par semaine, de préférence le dimanche. Par la suite, il faut attendre 1874 pour qu'un jour de repos par semaine soit accordé aux enfants de moins de 16 ans, uniquement dans les usines à feu continu. Donc pourquoi changer la loi qui aurait été instaurée au 19e siècle ?
Il y a environ 29% des salariés qui travaillent le dimanche, dont la moitié de manière habituelle, ainsi que 54% des travailleurs non salariés. Moi, pour donner mon avis personnellement, comme le disait Eva, je ne suis pas contre le travail du dimanche, à partir du moment où il est sur la base du volontariat et qu'il n'est pas systématique et surtout rémunéré en conséquence. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat et je remercie nos auditeurs. Au revoir.
une question qui provoque de vives réactions. Merci à Anaïs, Elsa, Angelina et Eva.
Ces trois débats ont été animés par Abigail, Valentin et Lorraine. On continue les débats avec Charlotte, Mélanie, Corentin et Alexandra sur l'ouverture des magasins le dimanche.
Bonsoir à tous. On est là aujourd'hui avec certaines de mes camarades. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et bonjour Corentin et Alexandre.
Bonjour.
On entend parler que les magasins s'ouvrent le dimanche. On peut donc se demander si c'est un avantage ou un inconvénient pour les entreprises et les salariés. Je vais laisser la parole à Mélanie qui va vous parler de certains inconvénients.
Pour moi, les salariés peuvent être sous pression du directeur qui n'ont d'autre choix que d'accepter de travailler tard ou le dimanche. C'est eux qui souhaitent défendre les syndicats qui estiment que le droit du travail est malmené. Selon eux, pas question de renoncer au dimanche, ça doit rester un jour de repos où les familles peuvent en profiter pour passer du temps ensemble ou être consacrées à des activités que l'on n'a pas le temps de faire la semaine.
Je trouve qu'Alexandre n'est pas d'accord.
D'accord avec toi, car des entreprises recrutent des étudiants pour travailler le dimanche, pour payer leurs études. Certains salariés souhaitent travailler juste ce jour-là, puisqu'ils sont payés double et bénéficient d'un jour de repos dans la semaine.
Et toi, Corentin, quel est ton point de vue ?
Je trouve que la loi est inégale vis-à-vis de certains magasins. Par exemple, les grandes surfaces peuvent être ouvertes tous les week-ends, alors que les petits magasins sont limités à 12 dimanches par an.
Et toi, Charlotte, qu'en penses-tu ? Je pense que les petits commerces n'ont pas forcément les moyens de garder leur boutique ouverte tous les jours de la semaine, car ils n'ont pas les moyens de payer un autre employé le dimanche. Vous avez réalisé un sondage, pouvez-vous répondre à quelques questions ? D'après votre sondage, combien de salariés voudraient travailler le dimanche ?
Près d'un salarié sur trois voudrait travailler le dimanche.
Y a-t-il dans l'année des périodes plus actives que d'autres ?
Bien sûr, par exemple les périodes de fêtes, comme Noël, aussi pendant les soldes qui se passent deux fois dans l'année. Sinon, c'est souvent des périodes creuses où on fait des promotions pour essayer de faire venir plus de monde.
Quelle est la moyenne d'âge des personnes qui veulent travailler le week-end ?
Le travail le week-end concerne plus souvent les jeunes, car c'est la moyenne d'âge est comprise entre 18 et 25 ans, car ils veulent payer leurs études grâce à ce petit boulot.
Quels secteurs sont les plus actifs le week-end ?
Les secteurs les plus actifs le week-end sont l'alimentaire, la santé avec la pharmacie.
Merci à tous de nous avoir écoutés parler de ce débat sur le travail le dimanche. Merci à mes invités, Mélanie, Corentin, Alexandre et Charlotte, d'avoir participé à ce débat. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Mélanie, Corentin, Alexandra et Charlotte. On change de sujet, Samuel, Sandra et Kevin débattent sur l'écologie et le développement durable dans les commerces.
Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Samuel Chamoux, je suis un élève en terminale bac pro commerce au lycée Louis Kerb de Rodez. Je suis avec trois amis de classe avec qui nous allons débattre sur une question que nous nous sommes posée. Donc je vous présente Samuel.
Bonjour.
Bonjour Samuel, Sandra.
Bonjour.
Bonjour Sandra et Kevin.
Bonjour.
Bonjour Kevin. La question sur laquelle nous allons parler ensemble est-ce que l'écologie et le développement durable intéressent les consommateurs d'aujourd'hui ?
Bonjour, dans le cadre de mon stage dans le prêt-à-porter, les clients achètent de plus en plus des produits issus de l'agriculture biologique.
Sandra, vous en pensez quoi vous ?
En ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord. Car lors de mes stages, ou dans le monde du jeu ou des fleurs, les clients pensaient plus à se faire plaisir au décor de leur intérieur qu'à penser à l'environnement.
D'accord. Et vous Samuel, vous en pensez quoi ?
Pour moi, toutes ces notions sont importantes, car quand j'ai fait mon stage dans un magasin de sport, il y avait beaucoup de clients qui achetaient des vêtements pour leur qualité, mais je trouve que cela n'est pas très important, car j'ai aussi eu des clients qui viennent acheter des vêtements par rapport à son prix.
Donc d'après vous, le terme de prix est important pour les clients ?
C'est ça.
Donc j'ai plusieurs questions à vous poser. La première c'est, est-il important pour vous qu'un magasin soit pour le développement durable et qu'il vende du bio ?
Oui, car pour moi, il est important de préserver la nature. Il me semble que le bio est bon pour la santé et cela garantit une qualité du produit.
Sandra ?
Pour ma part, je ne suis contre. Car quand je vais faire mes courses, je ne fais pas attention si le produit est de l'agriculture biologique ou non.
Samuel ?
Pour moi, il est important que les magasins vendent du bio, car c'est bon pour la planète ainsi que pour notre santé. Mais je trouve que le bio est trop cher.
La deuxième question pour Sandra, est-ce que pour vous, le bio coûte plus cher et de combien ?
Oui, le bio coûte plus cher, car d'après les recherches, le bio coûte entre 20 et 30% de plus qu'un produit normal. On peut prendre l'exemple du kilo de pommes golden. Le prix des pommes normales est de 3,30 et les pommes bio coûtent 4,40, soit 1,10 de différence.
Kevin, existe-t-il des magasins qui vendent du bio ?
Oui, il existe plusieurs magasins qui vendent du bio, comme par exemple BioCop, Carrefour, La Vie Claire, Naturalia, Monoprix et bien d'autres encore, dont certains d'entre eux sont le pionnier du bio, comme Biocoop qui est le leader parmi les magasins de bio.
Merci Kevin. Samuel, est-ce qu'il existe une gamme bio sur toutes les familles des produits ?
Oui, il existe plusieurs familles de produits bio, comme les fruits, le café, les fleurs, le sucre, la pâtisserie, le thé, les vêtements et la téléphonie mobile. Au sujet de la téléphonie mobile, j'ai appris que Nokia a voulu sortir en 2010 le tout premier téléphone biodégradable et écologique, qui a une durée de 3 à 4 fois plus longtemps que les autres batteries. Mais ils ne l'ont pas commercialisé, il aurait été vendu beaucoup trop cher.
Merci pour toutes vos réponses, les avis sont partagés sur l'écologie et le développement durable. J'espère que les intervenants vous ont bien éclairé sur le sujet. Au revoir à tous et à toutes, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci à Samuel, Sandra et Kevin. On continue et on termine cette série de débats avec Agathe, Valentin, Romain et Arthur, toujours sur le même sujet, à savoir l'écologie et le développement durable.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, en tant que citoyens et nous particulièrement en tant que futurs commerciaux. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'écologie, développement durable. Certains d'entre nous ont vécu en stage des situations de vente avec des produits bio, des produits locaux, ou encore des produits économes en énergie. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que l'écologie et le développement durable intéressent les consommateurs d'aujourd'hui ? Pour en parler, je vous présente mes invités. Agathe Méjean, bonjour.
Bonjour.
J'aurai à mes côtés Valentin Boyer, bonjour.
Bonjour.
Romain Gare sera également à mes côtés, bonjour Romain.
Bonjour.
Et enfin, il y aura Arthur Husserie, bonjour Arthur.
Bonjour.
Arthur, donc pour commencer, je te pose une question. Alors, selon toi, que signifie pour les Français la notion de commerce équitable ?
Tout d'abord, mon cher Dorian, le commerce équitable est un commerce conçu pour assurer une juste rémunération à des producteurs de pays pauvres afin qu'ils puissent développer leur activité à long terme et améliorer leur niveau de vie. Il contribue au développement durable. Pour les Français, acheter équitable, c'est une garantie sur les conditions de travail et le respect de l'environnement. C'est également pour aider les petits producteurs.
D'accord, très bien. Alors, question pour Valentin maintenant. Quels sont les objectifs principaux qui poussent les consommateurs à acheter les produits issus du commerce équitable, Valentin ?
Donc ça permet aux consommateurs de participer à une meilleure condition de vie pour les petits producteurs. Ça leur permet de faire un petit geste citoyen et solidaire, de soutenir le développement durable et ils savent d'où proviennent leurs produits, de par la traçabilité.
Très très bien. Alors question pour Agathe maintenant. Quels sont aujourd'hui les labels qui représentent le commerce équitable ?
Alors actuellement, pour représenter le commerce équitable, il y a trois grands labels, à savoir le label Alter Eco, Max Avelard et Artisan du Monde. À savoir que le label Agriculture Biologique n'est pas un label du commerce équitable, sauf s'il est associé à un label cité précédemment.
Très très bien. Alors maintenant Romain, qu'est-ce que pensent les Français de tout ça ?
D'après ce qu'on a appris en cours, les Français aimeraient plus être informés sur le produit, sur ce qu'ils consomment, surtout dans l'alimentaire et l'habillement. Certains Français sont prêts à boycotter les entreprises qui ne respectent pas la protection de l'environnement. Ils sont environ 56% à être prêts à payer plus pour le développement durable.
Ah, je vois qu'Arthur a quelque chose à nous dire.
Moi, personnellement, j'ai effectué un stage dans une grande enseigne alimentaire. Nous avons effectué un questionnaire qui nous a amené à dire que le plus gros taux de pourcentage de clients disait que les prix du bio étaient trop élevés.
D'accord, très très bien. Agathe, un avis sur la question ?
Oui, donc moi aussi, grâce à mon stage que j'ai fait dans une grande enseigne où ils étaient spécialisés dans des produits locaux, j'ai vu que les clients venaient spécialement pour ça et que ça les rassurer sur la qualité et l'origine des produits, quitte à payer un peu plus cher.
Très intéressant. Maintenant, j'aimerais bien voir l'avis de Valentin Boyer.
Alors moi, j'ai fait mon stage dans une enseigne d'électroménager. On remarque que l'écologie n'est pas un facteur d'achat parce que les produits écologiques sont les produits les plus chers et les clients n'en veulent pas.
Très intéressant, oui. Romain, t'en as vu sur la question ?
Je travaille à côté des cours et je vends de l'alimentaire du développement durable, c'est-à-dire qui vient des produits locaux. Beaucoup de clients sont attirés par ça, donc on a beaucoup de demandes.
Et du coup, même pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Donc pour conclure, le développement durable et l'écologie deviennent de plus en plus importants. Beaucoup de personnes y participent pour savoir réellement ce qu'ils consomment, d'où le produit provient, et etc.
Très bien, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, c'était un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci en tout cas à mes invités de m'avoir accompagné dans ce débat.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci à Agathe, Valentin, Romain et Arthur. Ces trois derniers débats ont été animés par Dorian, Gina et Samuel.
Radio Temps Rodez. La radio.